Une heure en Palestine, qui est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur les ondes de Radio Galère et qui est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13 qui vous propose cette émission. C'est Sidi qui est à la technique. Merci Sidi et merci à toute l'équipe de Radio Galère de nous permettre de nous exprimer ainsi toutes les semaines depuis sûrement plus de 20 ans. Ce soir, nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a Marité et moi-même, Claire, qui sommes membres de Palestine 13. Et il y a Marc, qui est un acteur culturel marseillais et militant pour la justice en Palestine. Avant de démarrer, je vous rappelle que pour Palestine 13, si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités et des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, aujourd'hui plus que jamais, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement www.assopalestine13.com. Nous renouvelons les articles de notre site et de notre page Facebook chaque jour. Dans la rubrique agenda, vous trouverez les dates et les dates et les lieux des actions à venir à Marseille, à Martigues et dans notre département autour de la question palestinienne. Je vous rappelle www.assopalestine13.org et page Facebook Palestine 13. Alors bien sûr, la date, la prochaine grande date, c'est dimanche. Dimanche à 14h, Porte d'Aix. Une grande manifestation que nous espérons monstre pour dire l'horreur de la guerre, pour dire stop au massacre. Donc dimanche, 14h, une manifestation unitaire avec tous ceux qui ont la Palestine au cœur, qui ont la paix au cœur. Dimanche à 14h, Porte d'Aix, dimanche. Nous avons aussi eu beaucoup de personnes qui nous ont écrit, téléphoné, enfin mis des mots sur Facebook parce qu'elles étaient intéressées pour rejoindre notre association. Nous avons proposé à toutes ces personnes une matinée de réflexion, de présentation, puis bon, des fois pour se soutenir, être un peu ensemble, samedi matin. Si vous souhaitez rejoindre ou si vous souhaitez rejoindre Palestine 13 ou si vous souhaitez débattre avec nous, n'hésitez pas. Un petit mot très 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 vite et nous vous répondrons. C'est pareil, hein, c'est assopalestine13@gmail.com. Alors aujourd'hui, cette émission qui a lieu au moment, un moment terrible de notre histoire, un moment terrible, un moment de défaite pour tous ceux qui ont cru à la justice, qui ont cru au droit international. Un moment terrible. Cette émission que nous avons eu beaucoup de mal à préparer parce que nous aurions bien fait une grande minute de silence. Et finalement, elle se déclinera en deux parties. D'abord, un message de Abdel Fattah Aboussour, qui est directeur du centre Al-Rawad dans le camp de réfugiés, des camps de réfugiés d'Aïda, près de Bethléem. Et en seconde partie, une rediffusion de l'émission de notre radio nationale préférée, une émission extraite des Matins de France Culture du jeudi 19 octobre 2023. Cette émission est intitulée « Palestine, une société entre guerre et exil ». Cette émission était avec Stéphanie Lat Abdallah, historienne, politologue, anthropologue, chercheuse au CERI de Sciences Po et au CNRS. Nous avions eu l'honneur de la rencontrer à la librairie Transit à Marseille en 2021. Elle avait présenté son livre, un livre passionnant et un livre qui explique aussi bien des choses, « La toile carcérale, une histoire de l'enfermement en Palestine ». Et cette émission avait un second invité, notre ami Elias Sambar, historien, poète, essayiste, traducteur du poète Mahmoud Darwish, ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO, qui est venu à plusieurs reprises au MUCEM et que nous rêvons d'inviter encore. Et cette émission est passionnante, nous l'avons nous-mêmes écoutée et réécoutée, et je suis sûre qu'elle ne vous laissera pas indifférent. À toi.
Avant de démarrer, je souhaite dédier cette émission à l'écrivaine et poétesse palestinienne Hiba Kamal Abou Nada, tuée dans un bombardement israélien à Khan Younes vendredi, dans le sud de la bande de Gaza. Elle avait 32 ans. Hiba Kamal Abou Nada était née en 1991 en Arabie Saoudite, dans une famille de réfugiés de 1948, originaire de Beit Jirja. Elle avait étudié la biochimie et la réinsertion scolaire avant de travailler dans l'éducation en 2017. Cette autrice, décrite comme une féministe, avait remporté la deuxième place de Sharjah Arab Creativity Award à la prestigieuse foire du livre Émirati pour son roman « L'oxygène n'est pas pour les morts ». Ces trois derniers jours, sur sa page Facebook, Hiba Kamal Abou Nada avait exprimé sa tristesse vis-à-vis de la guerre à Gaza. Je la cite. « Ma liste d'amis se rétrécit et se transforme en petits cercueils éparpillés ici et là. Je ne peux pas attraper mes amis alors qu'ils volent après les missiles. Je ne peux pas les ramener. Je ne peux pas leur présenter mes condoléances et je ne peux pas pleurer. Nos photos de famille, un sac de dépouilles mortuaires, un tas de cendres, 5 linceuls de différentes tailles enroulés les uns à côté des autres. Les photos de famille à Gaza sont différentes. Ils étaient certes ensemble, ils sont partis ensemble. » Sa dernière publication vendredi après-midi, terriblement prémonitoire, hésitait entre espoir et résignation. « Nous sommes à Gaza avec Dieu, entre martyrs et témoins de la libération. Nous attendons tous de voir lesquels nous serons. Nous attendons tous, ô Dieu, ta véritable promesse. »
Gaza, oui, nous sommes avec vous. Et Marc va donc nous lire le message d'Abdel Fattah Aboussrour, le directeur du centre El Arouad, dans le camp de réfugiés d'Aïda, près de Bethléem. Marc, à toi.
Oui, juste deux mots pour que les gens comprennent bien. Cet homme, Abdel Fattah, que nous avons tous ici rencontré lors de nos voyages là-bas, Abdel Fattah a inventé le concept de belle résistance. Et par exemple, pour donner juste un exemple, le camp de Aïda est collé au mur. Et un soir, il a invité toute la population du camp. Donc, je sais pas, tout le monde n'est peut-être pas venu, mais il y avait peut-être 300, 400 personnes, des familles, à assister à une projection de films burlesques de Buster Keaton ou Charlie Chaplin. Donc, la projection avait lieu sur le mur. Et les gens, donc, riaient devant ce mur. Et au-dessus, il y avait les miradors avec les soldats israéliens qui, évidemment, ne voyaient pas les images et ne devaient certainement pas comprendre pourquoi les gens riaient devant ce mur de la honte. Voilà le genre de choses que Abdel Fattah et son équipe inventaient chaque jour avec les gens du camp. Chers amis, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont contacté pour m'assurer de leur solidarité et s'enquérir de moi, de ma famille, de ma communauté et de mon peuple. Je suis infiniment reconnaissant envers ceux qui nous soutiennent dans ces temps si difficiles. Les journalistes des médias, les intervieweurs des télés viennent à nous, pointant le doigt vers nous et nous posant sans cesse la même question. Condamnez-vous le terrorisme palestinien? Condamnez-vous le Hamas? Répondons. Je me condamne vraiment moi-même. Je condamne toute mon existence. Je condamne ma propre naissance dans un camp de réfugiés dans mon propre pays. Comment est-ce que j'ose être un réfugié et vous charger de remettre en question votre humanité? Je condamne ma propre naissance de m'avoir fait naître palestinien, alors que selon bien des gens, la Palestine n'existe pas. Je condamne mes parents qui furent déracinés de leur village détruit et me donnèrent naissance dans un camp de réfugiés. Je condamne toute ma vie, avoir grandi, obtenu une éducation, avoir eu des espoirs et des rêves de devenir un grand biologiste, un grand chercheur qui sauverait des vies, d'être un peintre extraordinaire, un merveilleux photographe, un écrivain talentueux qui inspirerait le monde entier. Rien de ce que j'ai fait ne m'a fait devenir célèbre. Je me condamne pour clamer et continuer à clamer que je suis un être humain, que je défends mon humanité et ma dignité ainsi que celle des autres. On dirait que je ne suis qu'un animal humain ou encore moins, que je suis un extraterrestre imaginant qu'il a une place sur cette terre. Comment est-ce que j'ose même penser que je suis un être humain tout comme vous ? Je me condamne pour croire que les valeurs et les droits humains nous incluent, nous, les extraterrestres. Comment est-ce que j'ose même penser que nous faisons partie de ces valeurs ? Je me condamne pour croire au droit international et aux résolutions de l'ONU et à toutes ces déclarations qui disent que les peuples sous occupation ont le droit légitime de résister par tous les moyens. Comment est-ce que j'ose considérer que nous sommes occupés, même par une entité illégale qui est représentée comme l'unique démocratie du Moyen-Orient ? Je vous demande pardon. Je me condamne pour parler de cette occupation comme d'une entité. Je lis que ce qui définit un État est d'avoir une constitution, des frontières définies et une nationalité. Et puisque vous appelez l'État d'Israël, et puisque ce que vous appelez État d'Israël ne possède pas jusqu'à aujourd'hui de constitution, ni de frontières définies, et bien qu'ils aient voté la loi de nationalité, c'est un pays uniquement pour les Juifs. Mais apparemment, vous pouvez vous proclamer État sans aucun de ces critères. Pardonnez, s'il vous plaît, mon ignorance. Que puis-je dire ? Je suis si ignorant. Je croyais qu'une victime de viol avait le droit de se défendre, mais il semble que je me sois trompé. Je n'ai pas compris que l'on doive féliciter le violeur et condamner la victime si elle ose résister, que il ou elle prend plaisir au viol et en redemande. Je croyais qu'être solidaire avec les opprimés était une attitude juste. Erreur encore, car je ne devrais jamais m'identifier aux autres peuples opprimés. Il n'y a qu'une seule entité opprimée au monde et aucune autre. Je devrais féliciter les Israéliens pour opprimer les soi-disant Palestiniens et leur apprendre qui ils sont et quelle est leur valeur aux yeux de la communauté internationale, que leurs vies sont égales à zéro. Alors, monde, je suis vraiment désolé. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais induit en erreur et mal informé. Devrais-je m'excuser ? Je m'excuse profondément, monde, toutes mes excuses. Mes parents m'ont toujours dit que je devais soutenir les opprimés et empêcher les oppresseurs de continuer leur oppression. Je m'excuse. On m'a dit que je devais soutenir les méchants Sud-Africains noirs contre le gentil système d'apartheid blanc censé les humaniser. Je m'excuse. On m'a dit que je devais soutenir les sauvages amérindiens contre ces merveilleux colonisateurs blancs arrivés pour les civiliser et les débarrasser du fardeau de leurs terres et de leurs propriétés. On m'a dit de soutenir les aborigènes retardés d'Australie contre ces extraordinaires colonisateurs britanniques, civilisateurs blancs, qui vinrent les instruire. Je m'excuse. On m'a dit de soutenir les terroristes vietnamiens contre les très civilisés colonisateurs, français ou américains, qui savaient comment exploiter les pays colonisés et domestiquer leurs habitants. Je m'excuse. On m'a dit de soutenir les Indiens en Inde, les Irlandais, les Écossais, les Sud-Américains, les Cubains, les Espagnols et les Italiens contre les dictatures et les fascistes, les Allemands et les Européens contre les nazis, les Arabes contre les colonisations françaises et britanniques, les Palestiniens contre l'occupation britannique et sioniste. On m'a même dit de soutenir les Ukrainiens contre les Russes. Mes parents m'ont même parlé des pauvres juifs qui arrivèrent en Palestine dans les années 1900. Et dans ce temps-là, on avait pitié d'eux et on les aidait avec de la nourriture et plus encore. Je m'excuse. On m'a dit de soutenir la résistance de l'opprimé contre l'oppresseur. Je ne savais rien du droit international et des droits de l'homme. Je ne savais pas que tout ceci était faux et que c'est juste un mensonge qui convient à certains et pas à d'autres. Donc, monde, laisse-moi me condamner et m'excuser encore et encore. Je me condamne pour être ce que je suis. Je m'excuse d'être palestinien, d'être né dans un pays que mes parents appellent Palestine. Je m'excuse d'être né dans un camp de réfugiés, dans mon propre pays, et de n'avoir pu oublier les villages de mes parents qui furent détruits en octobre 1948. Je m'excuse de n'avoir ni cheveux blonds ni yeux bleus, bien que certains de mes cousins aient des cheveux blonds et des yeux bleus ouverts. Je m'excuse de toujours m'identifier comme palestinien alors qu'on me dénie cette nationalité. Je m'excuse d'encore appeler mon pays du nom de Palestine, bien qu'il ait été émietté en morceaux disjoints, et je ne peux toujours pas l'oublier. Je m'excuse de ne pas pouvoir oublier que je suis encore un réfugié dans mon propre pays, de ne pas avoir jeté la vieille clé rouillée de la maison de mes parents dans leur village détruit. Je condamne la revendication obstinée de mon droit à revenir au village détruit de mes parents. Comment est-ce que j'ose faire ça? Comment tous ces Palestiniens obstinés osent-ils revendiquer leur droit au retour? Nous sommes si aveugles que nous ne pouvons même pas voir les faits sur le terrain après les 75 années d'existence de la seule démocratie du Moyen-Orient. Je condamne mes parents qui m'ont élevé selon celui qui est consumé par la haine perd son humanité. Comment n'ont-ils pas osé m'enseigner la haine? Je condamne tout acte de résistance contre l'injustice et l'oppression, l'occupation. Comment osent les opprimés défier les oppresseurs? Je condamne chaque victime de viol ayant résisté aux violeurs. Ne peux-tu pas simplement ouvrir les jambes et l'accepter? Comment oses-tu refuser le plaisir du viol? Je condamne les assassinats de tout système terroriste. Les oppresseurs devraient avoir carte blanche pour continuer leur oppression sans avoir à en rendre compte. Je condamne ces Palestiniens et leurs supporters. Pourquoi ne peuvent-ils pas juste se taire et accepter que cette occupation illégale est le seul super pouvoir de la région et que lui résister est un acte raciste? Je m'excuse réellement auprès de vous tous de ne pas avoir été capable de coexister avec l'oppression et de n'avoir pas été capable d'accepter de prendre plaisir à la torture, à l'oppression et à l'humiliation. Certains y prennent plaisir, pourquoi pas moi? Je m'excuse de ne pas accepter l'exil de mon frère, l'emprisonnement de mes frères, de mes cousins, neveux, voisins et tant d'autres. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était pour leur bien et qu'ils étaient mieux en prison ou en exil que dehors, au soleil. Je m'excuse de ma stupidité. Je n'ai pas compris vos droits de l'homme et votre droit international. Je pensais que j'étais comme vous autres et non pas un animal humain. Je m'excuse de mon ignorance. Je ne comprends même pas comment on peut être un animal humain. Je pensais qu'il y avait des êtres humains et des animaux, bien que certains de ces animaux soient plus humains que les soi-disant humains. Je m'excuse, je me suis trompé. J'ai vu comment vous souteniez des résistances comme l'Ukraine et acclamiez ses combattants pour la liberté. Et combien héroïques étaient ces enfants entraînés pour résister aux Russes et qui pensaient que c'était normal. Je suis vraiment stupide et je m'excuse de ma stupidité. Je devrais aussi condamner la résistance ukrainienne. Je le promets, je fêterai l'apartheid. Je célébrerai la violation des valeurs et des droits humains. Je louerai tous les oppresseurs et les dictateurs. Je devrais louer tous les violeurs pour qu'ils continuent leur viol. Je devrais louer tous les menteurs et les manipulateurs pour leur distorsion des faits et de la vérité. Je suis vraiment désolé d'avoir tant échoué. Vraiment désolé de n'avoir pas su comment coexister avec ces doubles critères.
Comment coexister avec l'occupation, l'oppression, la déshumanisation et en être heureux ? Avez-vous un entraînement spécial ? J'aimerais vous rejoindre. Ou plutôt, vous pourriez me rejoindre, porter ma peau et me montrer comment je peux être le gentil animal que vous pourriez domestiquer. Ou devrais-je simplement dire « Non merci, je ne peux jamais accepter vos ordres et votre chantage. Je ne peux jamais accepter que les opprimés s'habituent à l'oppression et coexistent avec l'oppresseur tant que l'oppression durera. » Nous n'oublions pas. Nous nous souviendrons. Nous n'oublierons pas le silence, l'hypocrisie, les ordres et le chantage. Nous n'oublierons pas ceux qui ont élevé la voix et se sont levés pour ce qui est juste. Nous n'oublierons rien. Vous pouvez continuer à nous pousser au désespoir et nous continuerons à faire épanouir l'espoir. Vous pouvez continuer à promouvoir la mort. Nous continuerons à promouvoir la vie. Vous continuerez à faire le pire. Nous continuerons à faire le meilleur.
Merci Marc pour ces textes terribles. Nous continuerons, nous serons dans la rue dimanche à 14h. Donc deuxième partie de cette émission, la Palestine, une société guerre, entre guerre et exil.
En 17 ans, 6 guerres ont touché l'enclave de Gaza. Comment la société gazaouie, plus largement la société palestinienne, vit-elle sous la menace, sous la violence presque permanente? Nous sommes ici dans ce studio avec Stéphanie Latt-Abdallah. Bonjour, vous êtes historienne, politiste, spécialiste des territoires israélo-palestiniens aux séries à Sciences Po et au CNRS. Et puis nous sommes en duplex avec Elias Sambar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Vous êtes aussi un homme de lettres, Elias Sambar. J'aimerais votre regard sur les quelques jours qui viennent de s'écouler. Comment les vivez-vous? Qu'en pensez-vous?
C'est beaucoup de questions en une seule. Je vais vous répondre. Je pense que c'est un drame, tout simplement, et au sens le plus fort du terme. Je pense que nous sommes face au résultat d'années et d'années d'impasse et de délégations palestiniennes aux négociations qui, pendant 30 ans, sont parties pour revenir bredouilles, les mains vides. Nous sommes face également à une déstabilisation régionale qui commence à montrer ses effets. Et nous sommes également face à une crise, on ne le dit pas assez, quelles que soient les pertes et les drames qu'Israël également a subi. Il faut savoir, je pense que nous sommes à la veille, à l'orée d'une très grande crise interne israélienne, car dès que les choses vont un peu et relativement se calmer, la crise va également se transposer au sein d'Israël, où une bonne partie de la société aura des comptes à demander à l'actuel gouvernement dominé par les colons.
Elias Sambar, dans l'actualité ce matin, il y a ce que Libération appelle le spectre de l'embrasement après l'explosion meurtrière dans l'hôpital de Gaza, des manifestations un peu partout dans plusieurs pays de la région, une nouvelle étape donc dans l'escalade du conflit, même si aujourd'hui rien ne semble indiquer qu'Israël soit responsable de la frappe. Là aussi, vos commentaires sur cette onde de choc qui se propage dans le monde arabe.
Vous savez, quels que soient les résultats des enquêtes, parce qu'il y en aura beaucoup, et je pense qu'elles seront très longues, pour savoir d'où est venu le tir contre l'hôpital, je suis certain que nous sommes passés à une deuxième phase et que les résultats, quels qu'ils soient, ne changeront rien à ce que vous avez qualifié d'embrasement. C'est vrai que le risque est là et que de toute façon, personne ne se conformera, ou en tout cas, les deux parties ne se conformeront jamais sur un même résultat de l'enquête. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant, et peut-être, je m'avance un peu vite, nous sommes en train de vivre le fait qu'il est très peu probable, à mes yeux, qu'une offensive israélienne terrestre aura lieu. Nous avons dépassé ce stade. Nous avons dépassé ce stade pour deux raisons. La première, c'est qu'Israël est de plus en plus enclin à calculer les effets des pertes, qu'en tout cas il aura, quelle que soit sa force militaire ou sa suprématie sur le terrain. et que d'autre part, et c'est l'argument fondamental, les États-Unis, et je pense que c'est ce qui s'est discuté pendant cette visite éclair du président américain, les États-Unis mettent maintenant une très grosse pression sur les Israéliens pour qu'il n'y ait pas d'escalade, car cela aboutirait à ce que vous venez de dire, un peu un tournant dans la situation et la stabilité régionale. Les Américains ont amené deux porte-avions pour assurer Israël qui sera toujours protégé et aidé, mais les Américains ont certainement dit aux Israéliens qu'il est temps de calmer le jeu. Et d'ailleurs, il y a une phrase sibylline employée de nouveau, alors que ça semble tout à fait chimérique, par le président américain dans son avion sur la voie du retour aux États-Unis hier. Biden dit que maintenant, il faut à tout prix qu'Israël fasse en sorte de raviver la solution des deux États. Peut-être que ça ne le sera pas. Je ne dis pas qu'on va...
Pourquoi cette phrase, Elias Sambar, pourquoi cette phrase vous paraît-elle curieuse dans ce contexte-là?
Elle n'est pas curieuse. Elle me rappelle une petite phrase que le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État des États-Unis, n'a cessé d'ajouter systématiquement à toutes ces déclarations d'appui absolu à Israël. Ça se terminait toujours par cette petite phrase également anodine. Il faudra penser à des mesures ou à des sacrifices ou à des décisions. Il faudra penser à des décisions difficiles. Quelles sont les décisions difficiles quand vous venez dire à un État que vous l'appuierez jusqu'au bout? C'est que vous allez lui demander quelque chose en contrepartie.
Joe Biden a aussi demandé de la clarté dans les objectifs de la guerre à Israël, ce qui est aussi une manière d'essayer de modérer le gouvernement israélien dans sa poursuite du conflit.
Je pense que les Américains ont les yeux sur la région. Vous savez, la question de l'embrasement, le terme qu'utilise Libération ce matin, c'est un enlisement. Les Américains sont extrêmement, extrêmement inquiets que la détérioration de la situation les amène à intervenir et que dans ce cas, ils s'enlisent, qu'il y ait une forme de nouvelle crise afghane dans la région. Et vous le savez, par exemple, à quel point déjà, sans attendre la suite, un certain nombre d'États arabes qui avaient décidé de se rapprocher d'Israël sont maintenant soit et sous la pression de leurs opinions. Je n'ai jamais pensé qu'il y aurait 1 million de manifestants à Rabat pour dire qu'il est temps de changer de politique et d'arrêter de se rapprocher d'Israël. La question de la normalisation a été frappée également par ces crises. Les Américains qui pensaient être en train de monter une architecture nouvelle qui permette une solution de la question, non pas sans les Palestiniens, mais en demandant aux Palestiniens d'accepter beaucoup moins que le minimum qui est déjà qu'ils demandaient. C'était cela la situation. Et bien de voler en éclats l'éloignement saoudien à cause de cette guerre. Les Saoudiens reprennent un discours très très ferme.
Voilà le tournant, et c'est peut-être aussi ce qui était souhaité par le Hamas lorsqu'il a mené cette offensive. Stéphanie Latabdallah, l'autre information de cette nuit, ce sont de plus en plus de manifestations qui montent en Cisjordanie contre Mahmoud Abbas, qui préside l'autorité palestinienne. Peut-être quelques mots pour nous rappeler ce qu'est cette autorité palestinienne et votre regard sur ce qui est en train de se dérouler en Cisjordanie.
Oui, je pense que ça a un lien un peu avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que lorsque Elias Sambar disait que il n'y aurait sans doute pas d'incursion terrestre, d'opération terrestre, je pense que c'est aussi à mettre en lien pas seulement avec la pression de Biden éventuelle, mais aussi avec, je crois, l'incapacité de l'armée israélienne à conduire cette attaque, en fait, et notamment en raison de ce qui se passe en Cisjordanie et de ce qui peut se passer sur le front nord. Donc je m'explique, je pense que de toute façon il faut énormément en fait de militaires pour conduire une attaque contre un groupe armé tel que le Hamas et qui est dans 500 km de souterrain, de tunnel. Et il n'y a finalement que 170 000 militaires de carrière en fait en Israël avec des réservistes. Il faut s'imaginer que pour conduire une guerre comme ça au sol qui peut être extrêmement violente, beaucoup plus difficile à conduire que bombarder par les airs, qui est quand même une stratégie beaucoup moins coûteuse, en tout cas pour les Israéliens, et terrible pour la population. Donc ça suppose autre chose, ça suppose d'autres modes d'engagement. Et au vu de ce qui se passe aujourd'hui notamment en Cisjordanie, mais également éventuellement sur le front nord. Je pense qu'il y a vraiment une crainte de l'armée de ne pas pouvoir mener cette opération. Donc pourquoi alors, donc en Cisjordanie, je reviens à votre question. Donc effectivement, il y a des manifestations contre l'autorité palestinienne. Bon, l'autorité palestinienne, voilà, elle est décriée depuis un moment maintenant. Hein. C'est pas la première fois. Aujourd'hui.
Très décrié. J'ai vu un sondage de juin 2023 qui montrait à quel point il y avait une percée du Hamas en Cisjordanie, à quel point l'autorité palestinienne était perçue par les Palestiniens comme étant corrompue, disqualifiée, bref.
Oui, alors en fait, je ne dirais pas qu'il y a une percée du Hamas en Cisjordanie.
C'était ce que disaient les chiffres.
Oui, mais non, en fait, ils disent pas tout à fait ça, les chiffres, quand on les regarde plus en détail. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un front d'opposition à la politique de l'autorité palestinienne, une politique de maintien d'une coopération sécuritaire avec peu en face, très peu de gains politiques, l'avancée de la colonisation sans frein, sans protection pour les civils, avec la multiplication des attaques de colons, comme on l'a vu. C'est devenu très, très dangereux aujourd'hui de vivre en Cisjordanie pour les Palestiniens, pour les villageois, pour les gens, je dis les villages parce qu'ils sont plus isolés, entourés de colonies, de circuler sur les routes. Et donc, il y a une sorte de front d'opposition à la politique d'autorité palestinienne. Je voudrais juste quand même expliciter un tout petit peu. Donc, un front qui réunit politiquement, et je dis bien politiquement, donc... des branches du Fatah qui sont opposées à la politique de Mahmoud Abbas, un parti comme le Front Populaire de Libération de la Palestine et le Hamas dans une union stratégique, tactique, politique.
Donc en fait, le front est plus large. On pourrait dire la gauche laïque, pour présenter aux auditeurs, on pourrait dire la gauche laïque et un parti religieux, c'est de cette manière-là, est-ce que...
Oui, et également, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'autorité palestinienne la politique menée par Mahmoud Abbas n'est défendue que par une fraction du Fatah, c'est-à-dire qu'il y a des fractions dissidentes du Fatah qui ne sont pas d'accord avec cette politique.
Elias Sambar, pourquoi aujourd'hui Mahmoud Abbas ne cède-t-il pas la main et le pouvoir ?
Vous savez, son pouvoir a été sapé systématiquement. Nous sommes au résultat d'un processus. Le pouvoir est déjà sapé. Mmh. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, et ça fait 30 ans qu'il est le seul à dire qu'il croit en la solution des deux États, qu'il croit en une paix possible, et qu'il revient bredouilleux du fait, d'une part, du durcissement permanent israélien, et d'autre part, du fait que ça fait également 30 ans que les Américains, qui se sont présentés comme les parrains du processus, n'ont jamais fait pression sur la partie israélienne pour arriver à une forme acceptable des deux côtés. Donc il y a cela, mais il y a plus que cela. Et je voudrais vous dire par rapport à la situation...
Quelques secondes, Elias Sambar, on se retrouve dans une vingtaine de minutes, mais si vous pouvez conclure en quelques mots.
En quelques mots, je crois que...
Vous aurez d'autres mots tout à l'heure. Hein.
Ah d'accord, très bien, tout à l'heure.
Bon, on se retrouve tout à l'heure. Elias Sambar, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO, homme de lettres. Et on se retrouve également avec Stéphanie Latabdallah, historienne, politiste, spécialiste des territoires palestiniens au CNRS.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et oui, de la politique palestinienne après l'explosion qui a touché avant-hier un hôpital à Gaza, qui a suscité des scènes de colère dans le monde arabe et également des manifestations violentes pour certaines d'entre elles en Cisjordanie. Nous sommes en compagnie de Stéphanie Latabdallah, historienne, politiste, spécialiste des territoires israélo-palestiniens, et puis en duplex avec Elias Sambar. Elias Sambar, vous êtes ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO, mais aussi homme de lettres. On évoquait le destin d'Abou Mazen, de Mahmoud Abbas, donc le président de l'autorité palestinienne, car je rappelle qu'il y a deux territoires palestiniens, il y a la Cisjordanie et puis il y a Gaza. L'autorité palestinienne est donc gouvernée par Mahmoud Abbas, lequel est aujourd'hui contesté par une partie de ces jeunes manifestants. S'agit-il, selon vous, Elias Sambar, d'une possibilité, par exemple, pour le Hamas de s'emparer des deux territoires ?
Pour vous répondre de façon très précise, je crois qu'avec cette crise, le Hamas vient de prendre le contrôle, non pas physique, non pas matériel, mais le contrôle de la question palestinienne. Aujourd'hui, c'est le Hamas qui apparaît comme le porte-drapeau de ce que des millions de Palestiniens et des centaines de millions d'Arabes appellent la résistance palestinienne contre l'occupant. Il y a eu un succès politique énorme avec cette crise, extrêmement coûteuse en vie humaine, très très dure, mais finalement le Hamas va se retrouver comme étant l'interlocuteur, car nous allons entrer maintenant dans une phase ou un deuxième temps de cette crise. Dans ce deuxième temps, Israël est déjà aux portes d'une crise intérieure très importante et les Palestiniens vont se retrouver à travers le Hamas en train de négocier l'après-crise. C'est le Hamas qui sera l'interlocuteur car je ne vois pas aujourd'hui quelle autre force palestinienne pourrait imposer une décision à ce mouvement.
Mais Elias Sambar, ça doit être terrible. Pardonnez-moi, je vous coupe comme vous êtes en duplex. Ça doit être terrible pour vous qui êtes un militant de la cause palestinienne, un militant laïque. Vous avez plusieurs fois participé à des pourparlers de paix, voir arriver ce groupe terroriste en situation d'hégémonie intellectuelle sur le monde palestinien.
C'est très dur pour moi et je voudrais ajouter, je suis furieux contre ceux qui ont laissé faire cette situation. Je suis furieux contre le fait que les États-Unis se sont contentés pendant 30 ans de regarder les négociations se faire sans jamais faire pression. Je suis furieux contre ceux qui ont applaudi en pensant que les colons, et ça a été la politique fondamentale de Benjamin Netanyahou avant même qu'il ne fasse son gouvernement, à savoir que les colons feraient le jeu jusqu'au boutisme qui rendrait la naissance des deux États absolument impossible. Bien sûr que ça me fait beaucoup. C'est une défaite. C'est une défaite pour tous ceux qui, pendant 30 ans, n'ont cessé de répéter, mais à l'infini, qu'ils étaient pour les deux États, que les deux États étaient une bonne chose, et qui, de façon cynique, savaient que cette possibilité qui était bonne et juste était en train de couler, de se noyer. Bien sûr que cela est très, très dur. Mais maintenant, il faut faire avec ce qu'on voit, avec ce que la réalité vous met devant vous. Nous avons une donnée nouvelle. Il y a un interlocuteur palestinien qui s'est imposé à nouveau. Et qu'il soit présent ou pas en Cisjordanie. Bon, alors, vous parliez tout à l'heure des sondages. C'est vrai, mais c'est avec eux que ça va se négocier l'après-guerre.
On était environ à 60% de popularité du Hamas en Cisjordanie en juin 2023.
Je vous donne ma parole que même pendant les négociations de paix, je n'ai jamais cru à ces histoires de pourcentage. Ça ne fonctionne pas comme cela. Ce qui vient de se passer et les réactions que vous voyez autour de la Palestine, oubliez les Palestiniens, autour de la Palestine, dans tous les pays arabes, et les pays musulmans également, mais dans tous les pays arabes, les réactions que vous voyez sont la preuve tangible que le Hamas vient de se présenter comme le porteur de la résistance palestinienne, bon, alors ça, comme c'est celui qui porte l'étendard.
Ça, c'est la mauvaise nouvelle que vous évoquez aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie, Stéphanie Latabdallah? Aujourd'hui, donc, il y a ce mouvement terroriste, il y a une guerre, il y a une déclaration de Benjamin Netanyahou qui souhaite donc en finir avec le Hamas, sans que l'on comprenne précisément d'ailleurs ce que ça signifie militairement. Est-ce qu'on peut imaginer que à l'intérieur du Hamas, à l'extérieur du Hamas, il y ait une transformation de ce mouvement terroriste en un mouvement politique plus tard, ou bien est-ce qu'il faut abandonner cette région à une scène désespérante telle que celle à laquelle on assiste aujourd'hui?
Écoutez, déjà, il y a plusieurs points, c'est-à-dire que vous rappelez les sondages, mais je ne pense pas qu'il y ait une hégémonie intellectuelle sur le Hamas. Il y a sans doute un élan parce qu'il représente en tout cas la capacité à être justement un interlocuteur, et en fait il semble que les politiques menées par l'État israélien, par les autorités israéliennes depuis au moins 20 ans, ont tendu tout d'abord à finalement le renforcer, c'est-à-dire en ne donnant aucun politique à l'autorité palestinienne qui n'a cessé effectivement de vouloir négocier, de faire appel aux instances internationales, etc. Il y a eu une volonté de maintenir le Hamas, parce que maintenir le Hamas, c'était une une possibilité de dire, d'une part, les Palestiniens sont divisés, on n'a pas d'interlocuteur avec qui faire la paix, et de discréditer l'autorité palestinienne. Alors, quand bien même, ça n'a jamais été la politique israélienne depuis la seconde intifada de vouloir régler ce conflit. Depuis la seconde intifada, il s'agit de gérer un conflit à basse intensité, on voit le résultat, échec, avec un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place et avec l'idée qui s'est affirmée petit à petit avec les gouvernements Netanyahou d'annexer la Cisjordanie et donc de gérer un espace dans lequel se trouve une population qui n'est pas citoyenne d'Israël. Donc à partir de là, si vous voulez, moi quand je veux bien qu'on parle des sondages, mais quand on regarde véritablement les sondages, c'est-à-dire au-delà de l'opinion, c'est-à-dire l'opinion qui va aller sur l'idée de oui, le Hamas est capable de rétablir un rapport de force. En fait, il y a beaucoup de gens qui disaient, moi j'y étais en juin, qui disaient mais en fait le droit international, ça ne sert à rien, parce que le droit international sans la force, personne n'est capable de l'opérationnaliser. Mais quand on regarde
aujourd'hui, quand vous voyez la situation, Stéphanie Latabdallah...
Non, mais juste un mot, c'est-à-dire que, par exemple, si on regarde les sondages concernant l'élection présidentielle, des sondages qui sont depuis 5 ans, c'est-à-dire avec une périodicité, on se rend compte que celui qui serait vainqueur de toute élection présidentielle, quelle que soit la personne en face, et un membre du Hamas comme Ismaël Haniyeh, par exemple, c'est Marwan Barghouti qui est emprisonné, et Marwan Barghouti qui est membre du Fatah. Donc moi, je pense qu'il faut relativiser cette idée, d'une part, et se poser la question de... Pourquoi les gens aujourd'hui, il y a un enthousiasme vis-à-vis du Hamas? Pourquoi? Parce qu'il est seul capable de rétablir un rapport de force, qui est le seul moyen qui aujourd'hui, en fait.
Mais alors, dans ces conditions, Elias Sambar, un rapport de force, pour quoi faire? Puisque on voit bien que l'initiative du Hamas, la manière dont celui-ci s'en est pris à des civils, la manière dont celui-ci a terrorisé donc des kibboutzniks, c'est-à-dire, autrement dit, la partie, j'allais dire, la plus favorable à la paix en Israël, ceux avec qui vous avez dialogué, vous n'avez cessé de dialoguer, Elias Sambar, maintenant que cela a été fait, qu'est-ce que l'on peut encore espérer?
On peut toujours espérer, et il faut continuer à espérer, sinon on démissionne et on rentre à la maison. Bien sûr qu'il faut continuer à espérer, et à espérer non pas dans... Le terme de paix est un terme très, très, très beau, très sympathique, mais moi je pense que ce à quoi il faut travailler, c'est à une réconciliation. C'est beaucoup plus solide qu'une paix conclue uniquement dans des traités et qui peut ne pas tenir. Elle est nécessaire, c'est une étape par laquelle il faut passer, mais au bout du compte, le conflit sera réglé quand la réconciliation, c'est-à-dire la paix des cœurs, et non pas la paix des institutions, sera là.
Mais alors, nous en sommes loin. Je pourrais vous dire nous que pardon, là, on est sur... Je vous laisse continuer.
Voilà, et donc ça c'est l'espérance. Aujourd'hui, on est face au second acte, si vous voulez, d'une pièce. Il y a 3 scènes dans la pièce. Nous allons être face, et simultanément, à la scène israélienne avec, je pense, une crise jamais vue depuis qu'Israël existe. Une crise interne qui va reposer toutes les questions et qui se soldera pas, comme ça là, s'est fait en 73, par le départ de Golda Meir, qui était première ministre à l'époque. Ça se soldera par des divisions beaucoup plus profondes dans la société. Une deuxième scène dans laquelle se joue le nouveau leadership palestinien. Une troisième scène, on n'en a pas beaucoup parlé, mais elle est omniprésente. Que devient l'architecture américaine dans la réorganisation de toute cette région, notamment qu'avec l'émergence du Hamas, vous pouvez être sûr que l'Iran s'est replacé de façon extrêmement avantageuse sur l'échiquier. Les Iraniens sont aujourd'hui ceux qui ont poussé les Américains à envoyer les porte-avions. Ce n'est pas la force militaire de Hamas. C'est le fait que l'Iran, à travers des groupes, notamment au Liban et en Syrie, pouvait entrer dans la bataille et donc pousser les Américains non plus seulement à essayer de gérer, mais à envoyer des troupes au sol, eux également. Et donc, un risque d'embourbement dans la région, à l'Afghane. Donc, nous sommes face à ces 3 scènes. Elle s'ouvre. Nous sommes dans le deuxième acte. Les bombardements vont probablement continuer parce que ceux qui bombardent ne veulent pas paraître comme ayant cédé ou ayant perdu un peu ce bras de fer. Mais je pense qu'il y aura moins d'intensité.
Des bombardements moindres.
L'arrivée des vivres va beaucoup compliquer non seulement la question de la gestion de l'après-bombardement, cette dévastation terrifiante. Et on oublie que nous avons, depuis plusieurs jours, nous avons 100 enfants morts par jour. 100 par jour. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose pour ceux qui se contentent de parler de terrorisme, pas de terrorisme, d'essayer de trouver des définitions adéquates, pas adéquates. Nous avons 100 enfants tués tous les jours, sans parler des femmes, des vieux, ainsi de suite. Donc, il y a là une crise énorme. Elle va être gérée. Ça va compliquer la tâche des bombardiers et des lanceurs de charges à partir du ciel. Ça va compliquer, et ça a déjà compliqué la possibilité d'une offensive terrestre. Mais il y a le problème est là, il va falloir le gérer. Et ça ne va pas être une chose facile. Donc nous sommes entrés dans une deuxième phase, avec trois scènes conjointes.
Votre hypothèse d'une deuxième phase de la guerre, Stéphanie Latabdallah, dans ce contexte, qu'est-ce que l'on peut imaginer? Une deuxième phase, pourquoi faire? Est-ce que l'on peut imaginer, parce qu'il y a des mots, donc paix, réconciliation, mais il y a aussi une géographie, et cette géographie, jusqu'à présent dans la région, c'est elle qui s'oppose à la paix.
C'est-à-dire, vous voulez dire?
C'est-à-dire qu'il y a deux territoires. Ces deux territoires, pour la Cisjordanie, sont en proie donc à une colonisation. Cette colonisation, rien n'indique qu'elle soit conduite à s'arrêter. Au contraire, Gaza, c'est un territoire qui est aujourd'hui en partie détruit, surpeuplé, avec une situation humanitaire qui s'aggrave. Qu'est-ce que l'on peut imaginer dans ce contexte-là qui puisse donc permettre ou bien une sortie de crise ou bien une évolution?
Écoutez, là tout de suite, c'est difficile d'imaginer. La question qu'on peut se poser, c'est effectivement quels sont les buts poursuivis aujourd'hui par Israël en bombardant les civils. En fait, il applique ce qui a été appelé la doctrine d'Ahyeh, qui vient de la banlieue sud de Beyrouth, qui est de pilonner sciemment les infrastructures civiles. On voit qu'il y a 1 million de déplacés, plus de 3 000 morts, dont des civils et beaucoup d'enfants, comme le rappelait Elias Sambar. Donc en fait, il faut s'imaginer que pour la population gazaoui, les mots qui sont employés, c'est une nouvelle Nakba, avec ce déplacement de plus 1 million de personnes, donc vers le sud, et les gens craignent de devoir aller plus loin en Égypte. Et les gens parlent de nettoyage ethnique, ils parlent de génocide. Je vous dis bien ce que les gens parlent, comme ils ont vraiment l'impression qu'ils sont visés en tant que population civile, en tant que peuple. Donc en fait, on se demande effectivement quels sont les objectifs israéliens dans ce contexte. Et c'est vrai que la politique de Netanyahou depuis des années a toujours été une politique tacticienne et sans profondeur politique. C'est-à-dire qu'il ne veut pas régler les questions politiques, il ne veut que régler des affaires tactiques au moment. Donc là, il s'agissait de rétablir la peur, en fait, de rétablir cette idée, parce que finalement, la manière dont ces combattants se sont infiltrés en Israël, sont sortis. Il y a eu cette idée que finalement tout cet enfermement gazaoui et cette puissance militaire israélienne était mise en échec. Donc en fait, l'enjeu là, il est immédiat, et c'est ça. Après, ce qu'on peut imaginer, comme le disait Elias Sambar, je pense qu'effectivement, tout le monde est là, on ne parle pas avec des terroristes, etc., etc. Le Hamas est l'interlocuteur d'Israël depuis des années déjà. Pourquoi? Parce que...
Il pourrait cesser de l'être aussi, dès lors qu'il y a eu le 7 octobre, cela pourrait signifier une fin...
Oui, mais il y a des otages, ça aussi, ça gêne l'opération terrestre, en fait. Que faire de ces otages? En Israël, il y a une population civile qui veut voir revenir les siens, qui veut que ces gens rentrent. Donc, comment vous faites? Il y a des négociations en cours, là, aujourd'hui, par rapport à pouvoir faire sortir ces otages en les échangeant contre des femmes emprisonnées en Israël, contre des enfants, des mineurs emprisonnés en Israël. Et ça a cours. Donc, de toute façon, pour l'instant, il y a une dimension transactionnelle avec le Hamas, déjà.
Elias Sambar, j'ai entendu tout à l'heure vos mots sur les enfants qui meurent à Gaza, sur le fait qu'il était sans objet de s'interroger ou de qualifier de tel ou tel mot, d'utiliser le mot terrorisme quand de l'autre côté il y avait des enfants qui mouraient. Mais j'ai quand même une question à vous poser. Dans quelle mesure ce qui a été fait par le Hamas peut aider le peuple
palestinien. Quelle est cette stratégie? Cette stratégie qui n'est pas, vous évoquiez la guerre du Kippour, où il n'y a pas eu de morts civiles. En Israël, il y a eu des morts militaires, mais on n'a pas touché aux femmes, aux enfants. Comment imaginer cette inflexion donc, dans les actes perpétrés par certains? Et surtout, quelle utilité pour les Palestiniens?
Mais ma seule envie, c'est de vous renvoyer la question en changeant deux mots dans votre question. Dans quelle mesure une politique aveugle et imbécile menée par le pouvoir israélien depuis quelques décennies a-t-elle aidé les Israéliens? C'est la même question. Il faut poser les deux questions en même temps. Et l'une a provoqué la possibilité de l'autre.
Bon, il ne faut pas que la symétrie aussi empêche de penser. Et c'est-à-dire que j'entends bien ce que vous dites.
Je ne fais aucune symétrie. Je compare deux politiques. Je ne fais pas de symétrie. L'occupé est occupé, l'occupant est occupant et ça change tout. Je ne fais pas de symétrie. Nous sommes face à face. Nous ne sommes pas dos à dos.
Bon, mais...
Pardon, laissez-moi continuer. Il est très, très important aujourd'hui de se poser la question. Je ne méprise pas, moi, les qualificatifs juridiques. Je pense que le droit de la guerre est le droit de la guerre. Je pense que les conventions de Genève doivent être appliquées. Je pense que quand il y a crime de guerre, c'est crime de guerre. Ce n'est pas futile pour moi. Je vous dis, aujourd'hui, l'urgence n'est pas là, n'est pas dans ce débat. Ce débat est essentiel, il faut qu'il soit là. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est vous êtes face à trois scènes en crise. Une scène régionale extrêmement volatile, une scène palestinienne nouvelle, une scène israélienne en crise. C'est à cela que nous devons penser. Et je pense qu'il y a une voie de sortie. Vous me disiez, je parlais d'espérance tout à l'heure. Mais mon propos tout à l'heure sur la réconciliation peut sembler un peu idyllique. C'est possible. Mais là, je parle aujourd'hui, je vous réponds aujourd'hui, ce matin, à l'antenne. Il y a une solution qui pourrait être quasiment miraculeuse. Il suffit que les États-Unis n'utilisent pas leur droit de veto à la demande des Palestiniens de devenir membre à part entière de l'ONU. Mmh. Il suffit pas, il faudrait pas qu'ils votent, hein. Il suffit qu'ils n'utilisent pas le droit de veto au sein du Conseil de sécurité. La reconnaissance de la Palestine viendrait et ferait que désormais il y a un interlocuteur de plein droit est membre de l'organisation.
C'est l'option que vous donnez.
Pardon.
Elias Sambar, j'aimerais juste vous poser une question parce que malheureusement le temps tourne. Vous êtes une grande voix palestinienne. Vous avez participé à de nombreuses négociations de paix avec Israël. Est-ce qu'aujourd'hui un homme comme vous a la possibilité de parler avec le Hamas et de jouer un rôle politique, puisque les acteurs raisonnables sont disqualifiés, Abou Mazen est très marginalisé?
Je vais vous répondre très simplement. Moi, je suis un enfant de 48 qui a été embarqué dans un camion avec sa mère pour être rejeté à la frontière libanaise. Et c'est comme ça que j'ai grandi, moi, en exil. Et est-ce que vous vous êtes posé la question de ce que je ressentais le jour où j'ai été à Madrid et où je me retrouvais à la table des négociations face aux artisans de mon malheur?
Vous pensiez à vos parents, probablement.
Non, je me suis fait violence. Et parce que je voulais qu'il y ait une solution. Et aujourd'hui, il va falloir se faire violence. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Hamas, ça n'est plus la question. Vous avez une scène avec des acteurs sur le terrain.
Mais ce n'était pas la question que je vous posais. Est-ce qu'Elias Sambar peut appeler Ismaël Haniyeh? Est-ce que vous pouvez parler avec le Hamas? J'avais mis la morale entre parenthèses pour ne vous poser qu'une question politique, Elias Sambar.
Mais est-ce que vous croyez que les officiers israéliens qui étaient face à nous à la
oubliez Israël un instant. Oubliez Israël, répondez-moi sur la Palestine.
En tout cas, il y a des membres du Fatah qui peuvent le faire.
Je n'ai pas le choix. Ça n'est pas une question de sympathie ou de bien-être. Je n'ai pas le choix. Je peux rentrer à la maison, hein, en disant voilà, ça ne colle pas du tout avec ce que je ressens, je me fais violence, mais je peux me poser la question. Je pense que si je suis vraiment sincère pour qu'il y ait une solution, que la peine, la souffrance s'arrête, il va falloir que j'avale, personne ne me l'a proposé bien sûr, mais si on me le propose, il va falloir que j'avale cette couleuvre. J'ai avalé cette couleuvre pendant toutes les années des négociations, tous les jours. Et j'en suis, ça n'est pas le lieu pour le dire, j'en suis revenu physiquement malade. C'est le problème. Mmh. C'est le problème. La paix, c'est une entreprise qui consiste à vous faire vous-même violence. Dans la guerre, vous faites violence au camp qui est en face de vous. Dans la paix, vous faites violence. C'est infiniment moins doux, la paix, qu'on ne pense. C'est tout aussi violent que la guerre.
On comprend ce que vous dites.
Juste
un mot de conclusion.
Oui, juste deux points. Si vous voulez qu'il y ait un avenir, il y a deux choses. Il faut un cessez-le-feu. Il faut que la communauté internationale joue son rôle. Sinon, elle portera aussi la responsabilité de ce qu'il se passe. Et la question que vous posiez à Elias Samba, en tout cas, ça lui dit répondre. Mais moi, je peux vous dire en tout cas qu'il y a des membres du Fatah qui peuvent tout à fait parler au Hamas. Oui,
qui, en dehors de Barghouti, parce que Barghouti est en prison et malade.
Oui, mais enfin, en prison, vous savez, il y a des membres du Hamas et ils discutent aussi ensemble. Hein, c'est une possibilité. Donc, oui, Marwan Barghouti et d'autres.
On me dit qu'il est très malade.
Oui, mais peu importe. Il n'est pas seul, en fait. Il y a d'autres gens qui partagent son point de vue.
C'est pour ça que je vous demande des noms,
avec le Hamas.
Latif Abdallah.
Mais l'enjeu, lui, est-ce qu'il porte la mouvance qu'il porte, par exemple. Mais voilà, en même temps, si la communauté internationale ne s'engage pas sur un cessez-le-feu, là, l'avenir, effectivement, est très, très sombre. Et ça doit être immédiat, ce cessez-le-feu.
Stéphanie Latif Abdallah, historienne et politiste spécialiste des territoires palestiniens au CNRS. Elias Samba, ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO et homme de lettres, merci de nous avoir accompagnés ce matin.
Cette émission est terminée. Nous espérons qu'elle vous a intéressé comme elle nous a passionnés. Et je vous rappelle, manifestation dimanche à 14h, porte d'Aix, pour dire fini cette guerre, non à cette guerre, non à l'horreur. Binti Shalabi.